Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Rebondissement dans la crise au Liban. Emmanuel Macron invite Saad Hariri en France. Le Premier ministre libanais est actuellement en Arabie Saoudite, d'où il a présenté sa démission sous la pression des dirigeants saoudiens. Les explications de notre correspondant à Beyrouth, Omar Waman. Le président français qui était aujourd'hui à la COP23 à Bonn avec Angela Merkel. Emmanuel Macron a justifié sa nouvelle politique nucléaire. Selon lui, le maintien des centrales doit permettre de limiter les rejets polluants de la France. Nous en parlerons avec notre invité Nicolas Héringer de l'ONG 350.org. Tension à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les insoumis et les communistes ont quitté l'hémicycle après avoir été pris à partie par le député franco-israélien Meyer Habib. Le récit de Sophie Delpont. Et puis après ce journal, hommage à Françoise Héritier, disparue la nuit dernière à l'âge de 84 ans. Frédéric Worms avait reçu l'anthropologue en février dernier dans les discussions du soir. Emmanuel Macron s'implique directement dans la crise libanaise. Le président invite en France le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri ainsi que sa famille. Saad Hariri qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite. Certains au Liban, comme le président Michel Aoun ou le Hezbollah, accusent la monarchie saoudienne de détenir Hariri. Mais pour Emmanuel Macron, la venue du Premier ministre libanais en France n'est pas un exil, tout au plus un séjour limité dans le temps. Omar Waman, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Alors comment l'Élysée justifie-t-il cette invitation ?
L'Élysée déclare que c'est un geste d'amitié et une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban. Cette invitation est le fruit d'une longue médiation française qui réglerait la question de la supposée détention de Saad Hariri. Ce matin, Michel Aoun, le président libanais, a accusé Riyad de le détenir contre son gré, otage donc des Saoudiens. Mais cela ne réglerait pas la question de la démission de Saad Hariri qui n'a pas respecté le protocole puisqu'elle a été annoncée depuis la capitale saoudienne. Beyrouth attend donc qu'il rentre au Liban pour la présenter au président Aoun pour envisager la suite à donner. La méthode d'Emmanuel Macron, qui consiste à parler à tout le monde et à ménager toutes les parties, a donc permis de sortir temporairement de cette crise. La France a parfaitement joué le rôle d'arbitre pour mieux secourir l'ami Hariri.
Omar Waman depuis Beyrouth, merci. C'est depuis la COP23 à Bonn qu'Emmanuel Macron a réglé les derniers détails de l'invitation faite au Premier ministre libanais. Le président français était la tête d'affiche du jour à la conférence des Nations Unies sur le climat. Affiche partagée avec Angela Merkel, la chancelière allemande fragilisée par sa victoire étriquée aux législatives. Elle est actuellement en pleine négociation avec les écologistes et les libéraux pour former une coalition. Cet après-midi, Angela Merkel a clairement laissé entendre que l'Allemagne aurait bien du mal à tenir ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cyril Sauvageau nous appelle de Bonn.
C'est une Angela Merkel sur la défensive qui a pris la parole cet après-midi. L'Allemagne, souvent citée comme un modèle de transition énergétique, ne semble pas en mesure de tenir sa promesse, réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2020.
Je vais vous parler franchement. Pour l'Allemagne aussi, ces objectifs sont difficiles à atteindre. Nous devons d'un côté respecter les engagements que nous avons pris, mais de l'autre, prendre en compte la dimension sociale et l'emploi, notamment dans le secteur du charbon, et faire en sorte que l'énergie soit bon marché.
Comment concilier environnement et économie ? Le débat est au cœur des négociations de coalition qui se tiennent en ce moment même à Berlin. Les écologistes réclament l'abandon progressif du charbon avec dans un premier temps la fermeture de 20 centrales polluantes, mais Angela Merkel refuse pour l'instant de s'engager.
Bien sûr, nous savons que le charbon jouera un rôle majeur dans la réduction de nos émissions, mais comment allons-nous procéder ? C'est ce dont nous allons devoir parler très précisément dans les prochains jours.
Autant dire que la question n'est pas tranchée, mais la pression grandit. Selon un sondage pour le journal Die Welt, les trois quarts des Allemands sont favorables à une sortie du charbon.
Cyril Sauvageau, notre correspondant en Allemagne. De son côté, Emmanuel Macron a justifié le recul de la France sur le nucléaire. Impossible, dit le président, de ramener dès 2025 à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française. Une part qui est aujourd'hui de 72%, car pour Emmanuel Macron, cette remise en cause des objectifs de la loi sur la transition énergétique permettra à la France de limiter ses rejets polluants.
Pour ce qui relève de la France, nous devons accélérer cette transformation avec une obsession qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et que personne ne se trompe ici. Prétendre que nous devrions accélérer les fermetures de centrales nucléaires sans avoir répondu préalablement à cela, c'est nous condamner dans les prochaines années à réouvrir des centrales à charbon ou des centrales thermiques, et donc faire l'inverse de ce que nous sommes en train de nous engager à faire. La priorité, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Aucun recul sur notre engagement pour le climat n'a été fait, au contraire. Des décisions responsables ont été prises, qui ont abandonné les fétiches irréalistes, mais ont pris avant tout un agenda de décisions crédibles, volontaristes, qui supposera l'engagement de tous.
Emmanuel Macron, lors de son discours à la COP23, invité de ce journal depuis Bonn, Nicolas Héringer, porte-parole de l'ONG environnementale 350.org. Bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Héringer, Emmanuel Macron a aussi dit tout à l'heure que les équilibres de la planète étaient prêts à rompre. Est-ce qu'il y a, selon vous, chez le président français, une prise de conscience nouvelle par rapport à ses prédécesseurs ?
Prise de conscience dans les discours, à l'évidence, puisque depuis son élection, qui coïncidait peu ou prou avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, ou l'annonce en tout cas du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, Macron cherche à incarner un peu l'antithèse de Trump, et donc à endosser le costume d'un leader qui a compris l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, prise de conscience qui s'arrête là, parce que le costume est un peu trop grand et que dans les actes, en revanche, ça ne suit pas. Donc on est toujours dans l'entre-deux, et c'est assez problématique. La deuxième semaine de la COP s'est ouverte au moment où paraissait une étude qui montrait que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Donc on voit bien quel est le problème de l'inaction, et les discours en soi ne suffiront pas à régler ça. Or là, ce qu'on a eu, c'est à nouveau un discours effectivement assez fort et assez joli, même par moments, sur le constat. Mais en revanche, du côté des annonces, le compte n'y est pas.
Pourquoi vous dites que le discours d'Emmanuel Macron finalement n'a pas été à la hauteur ?
On pourrait se dire qu'il est venu les mains vides parce que il se réserve le 12 décembre pour faire de grandes annonces. Mais ce qui est sur la table autour du 12 décembre n'est pas...
Le sommet sur le climat à Paris.
Tout à fait, le sommet financier climat qu'Emmanuel Macron a convoqué pour célébrer les 2 ans de l'adoption de l'accord de Paris. Mais il semble pas que le compte y soit là non plus. Au contraire, Macron et Nicolas Hulot ont reculé sur leur projet de loi. C'est le gouvernement qui a déposé des amendements réduisant la portée de ce projet de loi, ce qui est quand même un comble pour un texte qui a été proposé par le gouvernement, donc sur la loi Hulot visant à sortir de l'extraction et de l'exploration des hydrocarbures. Il a reculé sur la question du fonds vert aussi, et sur la dotation française au fonds vert. Donc on est dans un moment un peu bizarre, quoi, où on se rend compte qu'il y a 2 ans, l'accord de Paris devait enclencher un nouveau cycle, et qu'en fait, ce qu'il a enclenché comme cycle, c'est un cycle de discours. Et encore une fois, le temps n'est plus au discours, le temps est vraiment à l'action. Et il y a une solution très simple pour combler le trou béant qu'il y a entre les discours et la réalité des actes, c'est de mettre les combustibles fossiles en dehors de la table, de dire ben, on cesse d'exploiter les combustibles fossiles, on cesse de les subventionner, on ne donne pas 1 euro de plus aux énergies du passé. Or, Macron ne prend pas ce chemin-là, et pire encore, il instrumentalise la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre pour reculer sur la sortie du nucléaire.
Oui, justement, parce que le raisonnement d'Emmanuel Macron, c'est de dire que la France renonce à diminuer la part du nucléaire à l'horizon 2025, et cela pour éviter un recours massif aux énergies fossiles. Ça, c'est un raisonnement que vous contestez ?
C'est un raisonnement qui est totalement contestable, puisque il est tout à fait possible d'avancer sur les deux fronts à la fois, la sortie des combustibles fossiles et la sortie du nucléaire, mais ça implique de faire preuve de volontarisme, donc d'investir massivement dans les énergies renouvelables et dans le développement de l'efficacité énergétique, de la rénovation de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et malheureusement, ce n'est pas le chemin pris par Emmanuel Macron. Le discours qu'il a tenu aujourd'hui sur le nucléaire, c'est celui des lobbies pro-nucléaire. Et il y a quelque chose d'un peu ironique à l'entendre défendre le nucléaire comme une alternative au charbon, au moment où Angela Merkel, juste avant lui, finalement n'a rien annoncé sur la sortie du charbon, alors qu'on pouvait espérer, ou alors qu'en tout cas, enfin voilà, la seule solution pour elle, c'était d'annoncer une sortie du charbon à l'horizon 2020-2030.
Pour la France, pour vous, c'est encore possible l'objectif 2025 de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française ?
Non seulement c'est encore possible, et puis même si c'est quelque chose de complexe et qui demande de faire preuve d'énormément de volontarisme et d'accélérer les choses, annoncer que ça n'est pas possible et que l'on recule, en fait, c'est envoyer un signal très négatif, parce que c'est une manière de dire aux investisseurs, en fait, le nucléaire va continuer à être une part essentielle de l'énergie à l'avenir, donc continue à faire comme si de rien n'était. Et c'est exactement la même chose qui est à l'œuvre sur les fossiles. En refusant de prendre des mesures fortes, on envoie comme signal aux banques et d'ailleurs aussi aux agences publiques françaises, hein, comme la Caisse caisses des dépôts, le signal qu'il est acceptable et qu'il est possible de continuer à investir massivement dans ces énergies-là. Il y a là aussi un peu une ironie à entendre ce genre de discours, le jour même où le conseil municipal de la ville de Rotterdam votait, donc aujourd'hui, la fermeture du terminal charbonnier du port de Rotterdam, qui est le plus grand terminal charbonnier d'Europe occidentale. Donc on voit au niveau local des autorités et des élus qui savent prendre des décisions courageuses et importantes, et au niveau national, malheureusement, des blocages qui subsistent.
À vous entendre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron serait un petit peu l'otage des lobbies industriels.
Moi, je pense qu'en la matière, ça relève plutôt du quelque part du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on est l'otage parce qu'on veut bien l'être. Il est l'otage des lobbies parce qu'il ne se donne pas les moyens de se dégager de leur emprise. C'est ce qu'on a vu notamment sur la question de la loi Hulot. On a construit avec un certain nombre d'organisations une mobilisation assez importante d'interpellation des députés. L'idée étant de venir appuyer l'ambition de cette loi, et plutôt que d'essayer de construire quelque chose à partir de cette mobilisation, le gouvernement a préféré reculer. Or, là aussi, il y avait une opportunité assez unique, Nicolas Hulot présentant son projet de loi au moment où l'ouragan Irma entamait sa course à travers les Antilles et la Caraïbe. Donc on est les opportunités sont gâchées et manquées les unes après les autres.
Nicolas Héringer de l'ONG 350.org, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La question d'un islamo-gauchisme supposé d'une partie de la gauche s'impose chaque jour un peu plus dans le débat public en France. Il y a bien sûr cette violente polémique entre Rice et Edoui Plenel, le directeur de Charlie Hebdo accusant son homologue de Mediapart de complaisance envers Tariq Ramadan et l'islamisme en général. Nouvel épisode aujourd'hui, cette fois à l'Assemblée. Lors de la séance des questions au gouvernement, les députés insoumis et communistes ont quitté l'hémicycle lorsqu'ils ont été mis en cause à propos d'un séjour à porté en Israël. Un groupe d'élus souhaitait rencontrer deux prisonniers, le dirigeant palestinien Marwan Barghouti et l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, refus des autorités israéliennes, et l'affaire a agité l'Assemblée, Sophie Delpont.
Et cet après-midi, quand Meir Habib, député UDI franco-israélien, pose sa question au gouvernement, il attaque directement la délégation de députés France Insoumise et communistes, des propos virulents qu'il répète devant la presse dans la salle des quatre colonnes.
Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Salah Hamouri et Barghouti sont des terroristes. On peut être pour la cause palestinienne, on ne doit pas soutenir des terroristes. On ne peut pas aller en Israël, pourquoi voir Barghouti? Qui c'est Barghouti? Barghouti, il a assassiné des civils. Alors peut-être que pour certains, on a le droit d'assassiner des civils en Israël. Vous savez ce que je leur conseille à ces gens? C'est d'aller voir Salah, mais un autre Salah. Salah Abdeslam à Fleury-Mérogis, parce que c'est exactement la même chose. Mais eux, ils ont une obsession, c'est la haine d'Israël.
Clémentine Autain, députée France Insoumise, qui fait partie de cette délégation, quitte immédiatement l'hémicycle, accompagnée par des députés PCF. Elle dénonce l'hystérisation des débats et un climat dangereux pour la démocratie.
Nous n'acceptons pas d'être insultés comme cela, et notamment dans un moment difficile. Et je trouve que, tu as entendu aussi Manuel Valls ce matin, j'ai l'impression que notre pays est en train de s'embarquer dans des débats public confisqué, beaucoup de raccourcis avec un niveau d'insulte qui est inadmissible. Je trouve ça révoltant. C'est un appel au calme, c'est un appel à l'intelligence, c'est un appel au respect des uns et des autres. Et moi, je suis du côté de la paix, du côté de la lutte contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme. Je le dis très clairement, très clairement. Et dans le même temps, nous sommes aujourd'hui confrontés à une menace de la part d'Israël qui, tout simplement, nous dit que nous ne sommes pas les bienvenus en Israël. C'est là la question politique de la semaine.
La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, répond à l'interpellation de Meir Habib dans l'hémicycle. Elle rappelle que la France a demandé la libération du franco-palestinien Salah Hamouri et encourage Israël à laisser les députés accéder à l'ensemble des interlocuteurs qu'ils souhaitent rencontrer pour remplir, je cite, leur mission d'information.
Le reportage de Sophie Delpont à l'Assemblée. Le retour de conditions anticycloniques devrait provoquer demain à Paris un épisode de pollution atmosphérique. La ville de Paris a décidé de mettre en place le stationnement résidentiel gratuit. Si cette pollution devait persister, des mesures de restriction de la circulation pourraient être prises. Le temps demain, justement, encore des nuages et quelques gouttes sur le nord-ouest de la Normandie aux Hauts-de-France. Sur le reste de la moitié nord, les brouillards parfois givrants seront tenaces, mais les éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Au sud, le soleil s'imposera dès le matin. Les températures maximales de 4 à 13 degrés sur les deux tiers nord, 11 à 16 sur le tiers sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.